www.dictionnaire.fr qui est très intéressant aussi, sur Philippe Cadic, où vous pourrez trouver plein d'informations, un site très bien fait. Et voilà, pour les fans, avec des informations absolument exclusives, voilà. Est-ce que j'ai fait le tour ?
Excusez-moi, je vais
On peut ajouter aussi le palais des déviants sur le réseau, sur le web, que Étienne Barillet anime avec Laurent Kessy. Ouais, c'est très drôle, il y a plein de choses.
Et de manière erratique.
Voilà.
Alors ensuite, Jérôme Leroy. Alors Jérôme Leroy, je suis absolument désolée, mais à part celui-ci, et un autre que j'ai oublié chez moi, j'ai... voilà, je n'en ai... Oui, voilà. Mais je sais que vous, on vous trouve assez bien en bibliothèque, parce que je suis une ardente utilisatrice des bibliothèques, et j'ai déjà vérifié, j'en ai emprunté là. Voilà. Donc, Jérôme Leroy, vous écrivez du polar et de la science-fiction. Vous faites des ateliers d'écriture. Qu'est-ce que je n'aurais pas dit, là ?
Poésie aussi.
Oui, poésie, c'est vrai. Tout à fait. Tu as un blog.
En fait, pas de genre en tant que tel, je ne suis pas un spécialiste de la science-fiction, il se trouve que j'ai besoin d'anticipation par moment pour dire ce que j'avais à dire. Voilà.
Et un blog aussi, j'ai mis les références du site de votre blog sur le glossaire.
Oui, le blog est plus déconnant quand même, c'est un laboratoire, ça s'appelle Feu sur le quartier général, c'est pas spécialement sur la SF.
J'ai mis vos trois sites en fait. Voilà. Mais c'est bien aussi des auteurs qui déconnent un peu, moi je trouve. C'est bien. Paul Renard, alors. Voilà. Les éditions Atria ont donc édité La 10e planète en 2 volumes. Alors ça semble un petit peu comme ça, des gros livres, tout ça. Ça se dévore. Voilà, ça se lit avec une grande facilité. Avec beaucoup d'humour, moi j'étais très agréablement surprise aussi avec la fluidité de toute cette histoire où c'est toujours extrêmement je pense que vous avez déjà fait du montage son, et je trouve que ça se voit qu'il y a une
dans une vie antérieure.
Mais ça se sent parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement dynamique. Alors on suit plein de personnages, on les retrouve avec plaisir, hop, ça nous emmène ailleurs, on se promène, et ça se dévore, ça se lit avec un grand plaisir. Et alors, vous avez fait quelque chose d'assez amusant, c'est que vous avez pris en fait un certain nombre d'énigmes, dont l'Atlantide, les grains de cristal, etc. Et vous essayez de lier tout ça, avec en mettant une grande histoire comme ça qui nous emmène sur plusieurs continents.
En fait, ça développe quelques théories plus ou moins ésotériques, entre guillemets, sur l'évolution de l'humanité, notamment en premier. Alors, effectivement, cette histoire d'Atlantide, le crin de cristal, j'intègre ça dans une histoire qui se déroule au fil du temps, entre moins de 65 millions d'années et 2030.
Voilà, c'est très large. Hein.
C'est pas très large, c'est de la paléofiction en fait.
D'accord. Et oui, voilà. Enfin, bon, je vais m'arrêter là quand même.
Non, mais continuez, c'est bien.
voilà, donc je vous recommande les éditions Atria qui existent depuis 2005, je crois.
2005.
Voilà, qui sont basées à Douai, qui ont un volet aussi Heroic Fantasy et une autre partie récit de vie. Et qui est des éditions dirigées par Laurence Krombeck, me semble-t-il. Gilles Barandon. Alors, deux livres, Le syndrome Huga, qui en fait, au départ, avait pour titre L'œil du calamar, et L'ellipse. Alors, moi, j'ai aussi beaucoup aimé les deux. Là. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que. Par exemple, L'œil du calmar, le syndrome Huga, est une histoire de fin du monde, et très différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans le registre. C'est-à-dire, pas du tout. Il n'y a pas d'hystérie, il n'y a pas de violence, il n'y a pas une certaine distance qui, finalement, est très, très plausible. est intéressante parce que justement on est loin de tous les clichés. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de super-héros, ça part d'une humanité voilà, qui voulait sa perte. Et justement, cette distance, cette simplicité apparente est assez troublante. Voilà. Et l'ellipse, je me suis fait avoir par la fin, mais prodigieusement. Voilà, un univers où au début je me demandais dans quel registre c'était, très ciselé, avec une fin très surprenante, qui nous emmène vraiment vers une abstraction troublante. Et beaucoup de géométrie, ça me faisait penser à ce que tu racontais hier, Christophe, dans ta partie sur l'esprit mathématique. Voilà, voilà, donc là je pense que je vous ai présenté, ça va? Tu veux rajouter quelque chose?
Sur ces livres-là, si on parle de la fin du monde, je veux juste te dire que si c'est assez doux, c'est parce que ça s'apparente à une fin de vie. Tout simplement, ça peut avoir une fin de vie peut-être sereine, vu qu'il y a un mort sous profil, et elle permet le recul. C'est un petit peu ça, peut-être, qui dit le détachement qu'il y a aussi. Distance, tout ça n'est pas si grave, en fait, quelque chose de l'ordre ou de la vieillesse, tout simplement.
Alors là, je vais me permettre une question. C'est. Déjà, quel est votre parcours pour écrire, qu'est-ce qui déclenche, alors c'est pas tout, mais moi je trouve ça toujours très intéressant de savoir que déjà quel est votre déclenchement pour l'écriture, mais aussi pour toucher à des univers. Vous avez commencé à répondre, Jérôme, mais vous pouvez après développer, c'est-à-dire comment on se retrouve à écrire de la science-fiction.
Je vais peut-être répondre en premier. En fait, l'aspect science-fiction, pour moi, n'est pas dérogatoire à un autre genre d'écriture. C'est si le thème que j'ai envie d'évoquer, c'est-à-dire ce que disait Jérôme, si le thème peut être servi par le domaine de la science-fiction, par exemple de l'anticipation, eh bien, allons-y. Mais en l'occurrence, le processus d'écriture n'est pas différent. Un certain nombre d'autres romans, quand il fallait faire du roman historique, j'ai pris le cadre de la Seconde Guerre mondiale et de la Libération. Quand il s'agissait d'évoquer des choses plus intimes, j'ai pris la vie des villages contemporains ou un petit peu plus anciens. Ce qui met en écriture la motivation au départ, pour ce qui me concerne, c'est le thème évoqué. Et l'intrigue, et tout le reste, le scénario, les personnages, etc., sont au service de ce projet. C'est évoquer un thème, comme je le ferais, mais je n'en suis pas capable, par le biais d'un essai. En fait, le roman, par défaut, le moyen pour moi de parler d'un thème qui tient. Et il est servi par des gens littéraires, on met. C'est plus le rôle de l'éditeur et du bibliothécaire, du libraire, de mettre ce livre dans une case, mais ça procède de la même chose.
Comment on vient à l'écriture. En ce qui me concerne, moi, à l'époque, j'avais une entreprise de création publicitaire, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, bon, il s'est fait que j'ai eu quelques petits problèmes de santé, ce qui m'a permis de connaître mon médecin qui est un ami aujourd'hui, et généralement on peut dire comment on est un livre, ça c'est curieux cette histoire, c'est qu'en fait on se voit dire régulièrement pour l'intérêt évidemment, et comme toute personne qui picole un peu, là on refait le monde, voilà. Et c'est un jour un mari assez bête, je lui dis écoute, toutes ces idées je vais en faire un livre, et puis il m'a dit en gros c'est ça, c'est vraiment venu comme ça, et du coup depuis bon, la société en question j'ai arrêté de toute façon, parce que je dirais que la publicité, au fil du temps, une prise de conscience se font. Et je me suis aperçu que quelque part, par rapport à ce que je pense profondément du monde, son avenir, faire de la pub pour vendre des petits céréales ou des téléphones portables était totalement contraire à ce que je pense de l'évolution de l'humanité. J'ai donc vraiment totalement raté ça. Aujourd'hui, je fais encore quelques interventions dans le domaine de la voix, ou de la création, mais uniquement lorsque ça correspond à mon métier. Par exemple, la météo à France 3, pour autant, mais c'est là que je le fais. Mais il est hors de question aujourd'hui, maintenant, que je fasse une pub pour une grande surface, un truc comme ça, c'est fini. Mais en fait, la 10e planète vient là, donc il y a tout un amalgame d'idées, de thèmes, récurrents qu'on retrouve maintenant. Ben, le Thomas, en fait, parle plus de la relation entre, c'est un peu l'actualité, entre la façon dont la religion est utilisée pour maintenir le pouvoir. Et dans le second, en fait, on parle plus d'économie, où en fait, j'ai poussé en 2030 le système actuel à fond. Il n'y a plus de multinationale, il n'y a plus qu'une seule qui gère absolument tout ensemble et qui maintient toute la population humaine sous un joug de fer, en fait. Et tout ça, bien sûr, va être révolutionné, puisqu'on a science-fiction, on parle d'une série d'événements, mais on va jouer le soin du coup. Voilà.
Donc les deux personnes qui voient l'apéro
assez
régulièrement, c'est bien vous.
Et c'est la raison pour laquelle, dans mon premier. Dans le deuxième, je les ai repris, mais en tant qu'esprit, mais ils continuent à avoir la peur. L'intérêt pour eux, c'est qu'ils peuvent même en picoler quand ils veulent, mais sans avoir la gueule du voile. Hein. C'est pas plus mal. Donc en fait, on les retrouve forcément. Dans le prochain livre en cours, il y aura aussi deux.
Et qu'est-ce que raconte le prochain qui est en cours?
Le prochain livre en cours, là, je ne vais pas trop en parler parce que justement, pour. Secret, il sera un petit peu entre le fantastique, la science-fiction et le flair. Et ça va s'appeler, ça je peux le titre, je vais ça va s'appeler La Parure.
Là.
La Parure. D'accord. Un petit hommage à mon reste. Mais bon, je ne dis pas plus, sinon on va réveiller un truc. Voilà, moi, je ne sais pas.
J'ai vous
sur l'envie d'écrire, enfin, ouais. Sur, pas spécialement sur la science-fiction, l'envie d'écrire, moi, ça a toujours été en fait. Je pense que dès que j'ai su lire, j'ai eu aussitôt envie d'écrire. Et ma mère me rappelait un souvenir récemment qui était que j'avais, à 7 ans à peu près, j'avais écrit, j'écrivais, si je lisais un roman de chevalerie, j'écrivais une histoire de chevalerie, si je lisais un roman d'aventure préhistorique, j'écrivais une histoire préhistorique. Et ce que je faisais là, c'était avant, vous admirez les rôlistes, mais c'était avant la photocopieuse et l'informatique, je recopiais mes histoires à plusieurs exemplaires, je leur mettais un titre, un prix, et je les vendais. Je les vendais à mes sœurs, à mes cousines, y compris d'ailleurs si elles ne savaient pas lire. Et ils pouvaient déjà, en plus, peut-être que j'allais, par tous les moyens, essayer d'en faire un métier, parce que écrire est aussi un métier, voilà. Mais au sens noble. Donc voilà, je pense que c'est toujours venu. Et puis si le rapport à l'anticipation ou à la science-fiction, j'en ai un petit peu parlé ce matin déjà, mais d'abord ça a été un goût de lecteur. J'ai pas forcément lu bonne chose dès le début, quoique le hasard a fait que je suis venu à la science-fiction, essentiellement par la science-fiction française, justement, plutôt que. Je ne vais pas dire que j'ai commencé par Dick ou Ballard, c'est faux, j'ai commencé par Les Fleuves Noirs d'Anticipation, que je lisais comme ça de manière absolument passionnée, parce que c'était vraiment une littérature qui m'avait dans l'imaginaire pur, et puis très vite. Je me suis aperçu, c'est ce que j'ai aimé aussi en disant des gens comme André Fond, comme Dorénieux, comme Voltaire, que c'est plutôt vers 15-16 ans qu'il y avait une vraie dimension politique dans cette littérature qui commençait à sérieusement m'intéresser. Et de fait, je me suis, et je pense qu'on n'est pas, vous êtes là, il y a des raisons, si nous sommes, c'est que très vite, j'ai eu l'impression maintenant, hein, pour dire ça remonte à une quinzaine d'années, mais de vivre déjà dans un monde de science-fiction par rapport à ce que nous avons, peut-être pas pour les plus jeunes, mais pour ceux qui ont. Enfin, je ne suis pas si vieux, je me souviens d'un monde sans portable, un monde sans internet, et pourtant on a l'impression qu'on est, remonte à la toute antiquité. Donc ce qui m'intéresse dans l'anticipation, c'est que c'est à la fois une lecture, soit j'aime beaucoup Ballard, que je citais, parce que c'est, il appelait ça du présent visionnaire. C'est-à-dire qu'on est dans une, on est en permanence dans un léger décalage temporel par rapport à notre propre. On est toujours demain. Voilà. Et c'est ce qui me passionne dans l'anticipation aujourd'hui. En tant que, plus encore en tant que lecteur qu'en tant qu'écrivain, dans ma production, c'est plutôt du roman noir ou du roman littéraire général, même si je reste un lecteur passionné, et si souvent j'ai aussi essayé, comme tu le disais, de pratiquer une forme d'hybridation entre différents genres, parce que ce que je trouve qui est intéressant dans la littérature de genre ou la littérature type populaire, c'est sa faculté, on ne peut pas être très codifiée. Et en fait, je pense qu'au contraire, elle est un champ de liberté formidable, et que le polar s'hybride très bien avec le fantastique, qui s'hybride très bien avec la science-fiction, etc. Alors, je sais que ça peut être parfois, le milieu de la science-fiction est très puriste, très jaloux de ses prérogatives, de son. Voilà. Mais il n'empêche que ce qui est fascinant, c'est quand c'est la grande part de tous les genres. Voilà.
Je n'écris pas de fiction. Moi, je suis dans la catégorie essai. Donc, je ne boxe pas dans la même catégorie. Mes romans n'ont jamais dépassé le paragraphe. Et quelque part aussi. Autant, là, ce que tu disais sur Internet, c'est vrai, il y a des blogs qui font un travail exceptionnel, il y a. Masse Wikipédia, mais je pense qu'il y a tout un travail à faire et un travail de fond qui est toujours un travail d'éducation, de transmission, voire de fixation de ces idées qui passent encore que par le livre et que par la forme de l'essai. Donc quand j'ai eu l'opportunité, j'ai pensé. Et on se pose des questions après. Voilà.
Et l'opportunité, c'est-à-dire qu'est-ce que.
Ah bah, avoir un éditeur.
Voilà.
Voilà, qui est prêt à. Qui soutient le projet.
Vous avez attendu l'éditeur et puis après vous êtes lancé.
Voilà.
D'accord.
Je suis très raisonnable.
Alors c'était qui l'éditeur? C'était le mouton électrique.
J'ai commencé à aller chez eux. Aux alentours de 2008. Et voilà. Ouais, les choses se font petit à petit, un peu après l'autre.
Et c'était l'ouvrage sur Stephen King, c'est ça?
Donc mon premier ouvrage, c'était un essai sur Fantomas.
D'accord, oui. Oui.
Voilà, sur les romans, les 32 romans pour Fantomas. Ensuite, la marche suivante, c'était le livre de Steampunk. Ma fierté étant que c'est pas le premier roman, enfin le premier essai au monde à traiter du genre.
Tout à fait.
Et après, donc, pouvoir travailler sur Philippe Katic, qui est un compagnon de presque toute ma vie.
On va reparler après.
Alors, moi, en fait, je n'ai écrit que. Je crois deux compositions sur l'ensemble.
Oui, toi, tu es plutôt dans littérature de l'imaginaire.
Oui, je tiens la distinction, c'est-à-dire que j'ai reconnu beaucoup de choses qui ont été effectivement. Pour moi, tel genre, c'est un moyen, c'est pas une fin, et un but à atteindre, puis surtout. A parlé de son goût, son approche. J'ai parlé de mon travail, parce que moi j'ai pas une approche littéraire de ce que j'écris, et j'ai pas une approche subjective de ce que j'écris. Aucun de mes textes n'est autobiographique, et j'ai une approche peut-être héritée de ce que je faisais avant, de dire plastique. Je travaille beaucoup par image, donc la fusion arrive assez rapidement, puisque je vais utiliser différentes sources, par exemple pour le prochain c'est manifeste, différentes sources, différents moyens, et je fonctionne visuellement. Je n'écris rien qui ne soit prémédité, qui soit prévu. Donc là, comment je fonctionne? Mes trucs que j'imagine, le roman fasse 50 chapitres, c'est très mathématique, hein, c'est pas du tout affectif. Je crée 50 fichiers. puis, pendant un an ou deux, je distribuais les informations que je trouve sur les fichiers, ce qui va permettre déjà de créer des rapprochements ou qui va créer une espèce de narration sans histoire. Mais si par exemple, il y a un piano qui apparaît au chapitre 3, il va ramener un peu de choses de ce piano, donc il aurait un rôle plus tard au chapitre 22. Puis, une fois que tous ces chapitres sont entourés d'informations, je rédige. Et je rédige non pas en fonction d'un style qui est préétabli, mais en fonction du style qui convient à ce moment. Par exemple, la Vénus anatomique est un pseudo-journal du XVIIIe siècle. Le prochain est écrit simple, ce qui, comme disait Mathilde Lussor, on a écrit simple et foutrement compliqué. Donc c'est, en fait, c'est vraiment une approche plasticienne. Donc, sous la fantaisie du polar, de la science-fiction, de la littérature générale, tout simplement, puisque mon prochain est par en littérature générale, la démarche est la même, c'est une démarche picturale, en fait. Et je voudrais revenir à quelque chose que, mais qui est personnel, hein. Je ne juge rien, je ne théorise rien, mais je tiens vraiment à l'absence d'implication au maximum dans les romans. J'estime que pour écrire Winnie l'ourson, il n'y a pas besoin d'être un petit ours. Pour jouer quand Robert Mitchum joue un révérend errant moitié branque, il n'y a pas besoin de se faire tatouer les phalanges. Voilà, il y a donc une part de création. Et pas d'affect. Donc, que faire se peut. J'ai été dépassé une fois, car j'ai envie de parler. C'est pour mon roman sur le Japon. J'ai travaillé avec une famille qui avait connu deux kamikazes dans. Deux japonais à l'ancienne. Une famille qui avait connu deux kamikazes dans son cercle. Et là, j'ai été dépassé par l'émotion. J'ai parlé dans deux après-midi entières avec une vieille dame qui était magnifique, une très belle femme, une petite fille. Quand elle a connu l'invasion de la Mandchourie par les troupes soviétiques, qui n'ont pas été des troupes de libération, mais elle vécue à ce moment-là, son père a fourré sa femme et sa fille dans le train, et elle l'a pas vue, me racontait-elle. Et sa mère a récupéré deux os de son mari. Il est mort dans un camp soviétique. Elle avait récupéré deux os, enfin ses amis avaient récupéré deux os qu'il a donné à sa veuve. Et elle a enterré un os dans l'axe probable de la maison vers l'Union soviétique. Et c'est authentique. Hein. Et elle a pilé l'autre os et elle l'a ingéré. Alors là, j'ai
Non, là, j'invite que vous soyez tout ça parce que vous êtes. Je pense qu'il y a des points communs et en même temps, il y a vraiment une différence entre vous. Et c'est intéressant. Peut-être que vous avez des questions dans la salle. Hein. Non ? Quelle est-il ?
Je suis désolé, Xavier. Le fait d'écrire, c'est plus d'être contrôlé parce que c'est. Ça vient du nouveau roman, quelque chose comme ça.
Ah non, pas du tout, non, non. Non, c'est vraiment une approche peut-être logique du fait de ma formation et surtout picturale. Par exemple, pas soumis de référence, mais le cycle de Craven, en fait, c'est une lecture du XXe siècle. Et j'ai travaillé comme le peintre Rauschenberg. J'ai fait un collage de tout ce qui est la Première Guerre mondiale, les super-héros, enfin, tout ce qui est le XXe siècle. Jusqu'à obtenir une image qui est en plus assez abstraite, c'est-à-dire c'est pas la fantasy où le gamin au chapitre 1 lui révèle alors qu'il est travaillé comme porcher qu'il est le prince du pays qu'on est. Non, c'est un truc assez aride en fait. Voilà, on se demande pas avoir des références, mais je les revendique pas parce que je les identifie pas.
je ne théorise pas du tout ce jeu.
L'Uchronie, toi tu m'as fait beaucoup des Uchronies. Vous en avez fait aussi un jour là. J'adore pas.
C'est d'abord une réflexion du chronique.
Ouais, c'est pas mal.
Non, non, c'est une
voilà. Je vais passer la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer
le chronique? C'est le terme inventé par Charles Grenouillet. Il désigne. Il y aurait deux étymologies, soit le temps euro, qui est quasiment un temps mythique, soit le temps non advenu, le temps qui n'a pas existé, et en fait, qui, l'Uchronie est l'équivalent temporel de l'Uchronie pour l'espace. L'Uchronie désigne un temps qui aurait pu être, et si les nazis avaient gagné la guerre, si Christophe Colomb avait été un bon marin, voilà, donc c'est une relecture du passé. Et c'est intéressant parce que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est l'assimilation entre science-fiction et anticipation. Et moi j'estime, on a parlé un petit peu hier, que c'est de moins en moins vrai que la science-fiction, c'est une raison de ces crises. Ne parle du futur parce qu'on en parle dans les informations, à la télé, etc. Et le mot futur est de plus en plus utilisé, enfin, c'est plutôt les mots à venir qui sont utilisés. Et c'est toujours noir. On parle de la crise, puis après les Grecs et les Espagnols, etc. Il y a une espèce d'habitude, de quotidienneté de l'avenir qui s'est installée, qui fait que la science-fiction ne semble avoir pas du son sur ce terrain, alors qu'elle redécouvre le passé via l'Uchronie, un passé réinventé, un passé heureux, un peu comme la fantaisie, et son attrait pour le temps du mythe. Et je pense que la science-fiction est de moins en moins synonyme d'anticipation, c'est peut-être en ce moment. Hein. Elle est de moins en moins telle.
Moi, j'ai découvert la science-fiction à l'adolescence. De Noël, par exemple, du futur, Asimov en particulier, justement parce que j'étais très interpellé par l'avenir. L'an 2000 me semblait absolument triomphant. J'avais 16 ans, m'intéressais à l'astronomie, c'était bien sûr le temps de la conquête spatiale. L'avenir était quelque chose qui me faisait fantasmer. Donc la raison pour laquelle j'ai lu la science-fiction, c'était justement parce qu'elle parlait d'anticipation. Et que ça me faisait rêver. Finalement, aujourd'hui, alors, je parle de manière subjective, ça tient à mon âge, ça me fait moins rêver, mais je m'aperçois qu'effectivement, la notion même de progrès, qui n'était pas remise en cause par ma connaissance à l'époque, l'est, le progrès technologique en particulier, l'est maintenant, et tout, effectivement, ce manque d'appétit que peut avoir notre auteur de science-fiction par rapport à nous, ceci explique cela.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je parle de la science-fiction aujourd'hui, lorsqu'on dit que les médias nous parlent du futur, en fait, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vit dans une espèce de présent continu, où justement, il n'y a pas d'avenir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on va en déjeuner, c'est effectivement l'impression dans le monde d'aujourd'hui, lorsqu'on se balade dans la rue, c'est d'avoir pris un acide par rapport à ce qu'on voit. C'est un petit peu ça. On vit dans un monde un peu hallucinatoire, en fait, actuellement. Mais vraiment, qui est figé complètement dans le présent, et les gens n'ont pas leur contraint de vue sur l'avenir. Bon, aujourd'hui, la science-fiction, quand même, peut être utilisée justement pour donner des solutions à cet avenir. Et pas forcément noir, pas forcément un avenir pointable. C'est-à-dire, il est clair qu'aujourd'hui, dans les années à venir, on risque de ne pas trop jouer, mais enfin, ceci étant, ça peut être tout de même qu'un monde meilleur va arriver, enfin, j'espère. Sinon, on a plus qu'à se faire un livre. Donc, je pense que l'ASF, quand même, doit continuer, pour moi, à avoir une vision future. Et il y a toujours, il y a un temps où c'était nettement plus, comment dirais-je, plus, plus glorieux, plus technologique. Si on prend le cas de gens comme Asimov, hein, objectivement, les robots, les compagnons, on imagine un avenir pour être robots qui vont faire de la place, un monde merveilleux, tout va bien. Bon, ça c'est un petit peu. Si on prend Dick, qui a toujours créé des sociétés qui sont en fait des sociétés actuelles, si on prend le cas du maître de château, enfin, choses comme ça, etc., sont, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que ce qu'il a écrit il y a quelques décennies est totalement actuel. Je crois que c'est dans le château qu'il y a des histoires de cartes qui servent pour à la fois de cartes d'identité, de crédit, etc. Donc voilà. Et le gars, le jour où ça va nous arriver, ça va nous tomber dessus dans très peu de temps, on aura une carte unique qui servira de carte vitale, carte bancaire, carte d'identité et de clé pour rentrer chez soi. Et le jour où votre compte est découvert, comme vous savez tout, votre porte, vous n'avez plus d'identité, vous êtes donné à partir. C'est un peu ce que décrit. Mais on n'est pas très loin de ça, en fait, de ce monde qui est encore une fois hallucinatoire. Et c'est vrai que pour moi, la SF, ça a toujours été ça. Ça a permis de montrer. Alors, ouais, il l'a fait très bien en 1984. Et on est actuellement, il a mis ça en 1984, on est en plein temps actuellement, c'est tout à fait ça. Donc je pense que c'est le rôle vraiment de la SF d'avoir cet aspect visionnaire. Et je pense que pour moi, la SF est toujours actuellement, je pense.
Je pensais à Orwell et à propos de ta remarque sur le progrès qui n'aurait pas été remis en question. Jusqu'à disons les années 70 l'apparition. Je pense que c'est vrai. Enfin, je pense que Orwell, par exemple, est quelqu'un, et ça pour ça 1984 est un livre essentiel, il a été pour moi de manière vraiment très importante, c'est que 1984, et surtout que la critique vient d'un homme de gauche, parce qu'il ne faut bien pas oublier qu'Orwell était un homme de gauche, s'est engagé dans la guerre d'Espagne, était même un communiste libertaire, enfin pré-marx. En référence au socialisme pré-marxiste. Donc c'était quelqu'un de gauche qui a très vite compris par rapport à cette espèce de naïveté prométhéenne qu'il y a eu avec des gens comme Asimov, justement, a très vite compris dès 1948, parce que 1948 c'est 84 à l'envers, a très vite compris que les idéologies totalitaires qui ont toujours existé au cours de notre histoire, on avait une chance énorme, c'est qu'elles avaient une puissance limitée du fait de leurs moyens technologiques. Et ce qui apparaît avec 1984, l'intuition d'Orwell, c'est que c'est la radio pour lui, dans le télécran, ce qui viendra à la télévision, etc. C'est que l'idéologie totalitaire ou totalisante, plus le progrès technique, qu'elle a servi, ce qui est en partie également le cas aujourd'hui, ça donne un véritable cauchemar. Puis après, ça permet de rebondir d'ailleurs sur l'Uchronie. C'est-à-dire que je me demande si, par exemple, les meilleures uchronies ne sont pas d'anciens romans de science-fiction. Je m'explique. C'est-à-dire que 1984 est un roman de science-fiction jusqu'en 1984. Il se trouve qu'on est maintenant en 2012, et que c'est-à-dire, si finalement on peut très bien imaginer, on est au, enfin, d'un point de vue strictement technique, c'est un passé qui n'est pas advenu. Puisque depuis 1984, c'est pas tout à fait ça, je me souviens très bien, j'avais 20 ans, en 1984, c'est le nombre de numéros de magazines littéraires, etc., sur, justement, ça y est, on y est, en quoi il a raison, en quoi il s'est trompé. Bon, à mon avis, il a raison sur tragiquement à peu près tout, parce que la lecture de 1984, c'est pas seulement la critique d'une société stalinienne, où c'est également, ça marche parfaitement avec notre société aujourd'hui. Complètement, c'est-à-dire qu'il compris par exemple la semaine de la haine où on se désigne à peu près nos sociétés trouvent un empire du mal tous les 10 ans à peu près à nouveau, et puis on va aller le dégommer. C'est le syndrome Goldstein en 1984. Goldstein, on ne sait pas s'il existe vraiment ou pas, c'est l'ennemi prévu par le système, c'est l'ennemi intégré par le système. Il ne s'agit pas d'être complotiste du tout, il s'agit de savoir simplement que des sociétés comme les nôtres génèrent l'art négatif et en plus savent le gérer. Voilà, donc, et 1984 est devenu, techniquement, si je puis dire, une uchronie, puisqu'effectivement, on n'y est pas arrivé. Donc, un bon roman de SF peut devenir une uchronie. Sur l'uchronie, moi, j'ai une très belle définition d'Emmanuel Carrère, qui parle d'un divertissement mélancolique. Mais effectivement, il y a quelque chose, mais ça rejoint peut-être ce que tu disais sur une des affections. On peut en discuter sur l'anticipation au sens classique du terme. Je pense qu'on peut en discuter parce qu'effectivement, je ne suis pas sûr. Mais ceci étant dit, ce qui est certain, c'est qu'on peut se demander si ce goût
du lecteur, lecteur de SF au sens large, pour l'Uchronie, n'est pas lié justement à un profond pessimisme sur, sur l'avenir, qui fait qu'effectivement, on essaye sans cesse de refaire l'histoire. Comme dans une histoire d'amour où c'est raté, où on, se réfléchit, où on réfléchit indéfiniment à, aux possibilités de refaire l'histoire, en s'apercevant que ce n'est pas forcément mieux. J'en ai lu une cet été de Stephen Fry, je ne sais pas si je prononce bien, et je suis en train de chercher le titre, c'est effrayant, mais c'est un garçon qui arrive à changer, enfin à ne pas faire naître Hitler en mettant un produit dans l'eau. J'ai le terme, je l'ai lu en folio SF, c'est Stephen Fry, Stephen Fry l'auteur, je suis sûr, qui arrive à ne pas faire naître Hitler. Donc il se réveille en un monde où il n'a pas fait naître Hitler, il est seul à s'en rappeler à peu près. Or, c'est pire, c'est-à-dire que c'est-à-dire que, en fait, à la place d'Hitler, un adjoint, un type inconnu, a pris le pouvoir et a fait encore pire. Du coup, la guerre s'est déroulée de la même manière, l'Amérique est restée en gros au niveau des années 50, totalement ségrégationniste, etc. C'est-à-dire que c'est en plus une nostalgie. Enfin, nostalgie, c'est déjà, étymologiquement, c'est la douleur de retour déjà malheureuse. En plus, c'est une nostalgie vraiment une nostalgie désespérée, parce qu'on s'aperçoit qu'on a beau la refaire, elle a tendance à suivre le même cours. Il y avait un roman de Kadic, justement, Le Voyageur du Futur, qui est peint, qui justement tient à un moment donné à une espèce de théorie qui est, on peut arriver à faire une date de rupture, mais c'est comme une rivière, à un moment donné ou à un autre, ça va reprendre son cours. C'est ce qu'il développe. Donc voilà, c'est le dernier roman que j'ai écrit, c'est un des classés comme Polar en série noire. C'est un roman qui imagine comment le temps d'une nuit, l'extrême droite entre dans un gouvernement. J'ai vu que certains en parlaient comme Polar anticipation. C'est pour ça, encore une fois, que ça pourrait être une Uchronie aussi. C'est pour ça que je suis très, très. Je préférerais presque ce que tu as donné comme définition, même si ça correspond à autre chose chez toi, qui est une idée de littérature de l'imaginaire. Voilà, au sens le plus large. Je pense que c'est surtout de ça dont on a besoin. Après, savoir comment chacun travaille, alors ne pas mettre d'affect, je ne sais pas si tu l'aimes. Moi, ça me semble à la fois totalement impossible, parce que justement, je pense que la littérature, c'est que de l'affect maîtrisé, sans arrêt. C'est de l'empathie contrôlée. C'est du. Voilà, c'est de l'interfiction. C'est. Oui, bien sûr. Oui, je parlais dans la méthode même de préparation. Ouais, je parle de beaucoup.
Je crois que là, on a dit beaucoup de choses, mais le principal problème de la science-fiction, c'est que c'est un genre littéraire vieux, qui a son histoire, son vécu, et qui a été rattrapé par son temps. Là, on peut parler de nous, adolescents, mais les adolescents d'aujourd'hui, eux, sont abreuvés de science-fiction tels que nous, on ne l'était pas. Et ce qui fait que l'émerveillement science-fictif n'a pas forcément lieu de la même façon chez eux que chez nous. Avec une autre idée, le fait que, à titre personnel, je pense que la science-fiction meurt. Parce que justement, elle appelle à être remplacée par quelqu'un qui lui montera sur ses épaules pour regarder un petit peu plus loin. Alors ça sera peut-être un retour de l'anticipation, l'éditeur de l'imaginaire, je suis totalement d'accord. Le boom actuel de l'Uchronie illustre cela, l'essor du steampunk également, c'est-à-dire retrouver des formes peut-être plus anciennes et les réinvestir de nouveau, en attendant qu'il y ait peut-être un auteur qui parle de notre temps d'une façon différente, ce qui fait qu'on dira ça, c'est ça. Il faut mettre l'étiquette qui fait que tout le monde se mettra d'accord. Donc ça, on fait ça aussi. Le problème de la science-fiction, c'est qu'elle est devenue tellement gigantesque qu'on en a montré qui trompe en face mal étreint et qu'on ne sait plus trop dans quelle direction elle peut aller ou ce qu'elle a encore à dire.
Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de l'expression steampunk et son origine?
Le steampunk est donc à la fois un courant littéraire qui est né dans les années 80 aux États-Unis et une esthétique qui, elle, investit aussi bien l'ensemble des arts plastiques, la musique, le cinéma, le dernier défilé de mannequins pour Victoria's Secret était l'influence steampunk. Tu feras des recherches, tu verras. Donc, qu'est-ce que c'est le steampunk? Le concept est extrêmement simple à comprendre. C'est juste imaginer un futur qui n'a pas eu lieu. Que se serait-il passé au 19e siècle si on avait effectivement inventé l'ordinateur comme on l'a presque fait? Donc, que serait devenu le monde? Mais une fois que cela est dit, le steampunk se débarrasse de l'idée chronique d'inventer une histoire autre. Parce que si mon histoire se déroule à Londres à la fin du 19e, eh bien, je peux faire intervenir Sherlock Holmes, je peux faire intervenir le capitaine Nemo, mais je peux faire intervenir aussi H.G. Wells, Jules Verne. Donc je vais mélanger toutes les couches de la fiction. Donc le plaisir du steampunk, c'est à la fois inventer un monde qui aurait pu être, tout en revisitant ce monde tel qu'on l'a lu et qu'on lit encore en littérature.
C'est essentiellement esthétique.
Et après, il y a la démarche esthétique qui, elle, va travailler énormément l'aspect vestimentaire 19e, mais en le décalant un petit peu, en injectant des éléments de science-fiction. Mais le steampunk peut être également un mélange d'histoire parallèle et de policiers, d'histoire parallèle et de fantasy, d'histoire parallèle et de... Voilà. Le dosage est à la mesure de ce que chacun veut en faire. C'est donc une matière molle. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de manifeste steampunk qui permettrait de dire c'est ce steampunk, c'est ça, c'est pas ça.
Il y a des formes quand même.
Il y a des formes obligées, donc les dirigeables, les machines gigantesques, les poses aventuriers, les jeunes aventuriers entorsés. Donc là, ce sont des... c'est tout ce qui va participer vraiment de l'esthétique.
Les ordinateurs avec des touches de vieilles machines à écrire.
Charles Babbage, donc à la fin de machine de la vie, avait travaillé sur le premier ordinateur de l'histoire de l'humanité. Il était subventionné par des fonds gouvernementaux. Ada Byron, donc Lord Byron, avait écrit pour lui le premier langage informatique de l'histoire, mais il n'avait toujours pas construit sa machine. Et au moment où il allait vraiment l'attaquer, un politicien idiot a décidé que ça coûtait trop cher et on a arrêté là. Donc la machine en est dans l'état n'a jamais été construite. Sur le papier, elle fonctionnait, tout était là pour que l'ordinateur naisse dès la fin du 19e siècle. Que se serait-il passé si? Donc ça, c'est le principe du roman de Gibson, et Sterling, La machine à différence, qui imagine donc toute une Angleterre, et par extension tout un monde, où cette machine a été construite et où la révolution industrielle a connu tout un monde totalement différent.
Et sur l'utilisation du mot punk dans l'expression, par rapport au courant musical?
Alors le mot steampunk, on va faire très rapidement un peu d'histoire, c'est trois écrivains débutants qui veulent se lancer dans la carrière, ils n'ont jamais rien publié. Ils ont un éditeur qui leur propose un premier contrat. Ils acceptent, c'est d'inventer des histoires en imaginant que le roi Arthur revienne à différentes époques de l'humanité. Bon, comme bien souvent avec les éditeurs, ça tombe à l'eau. Et eux, ils n'avaient pas signé le contrat, ils étaient vraiment débutants. Donc ils se retrouvent avec leurs manuscrits sur les bras, donc des fictions. Et il y en a un d'entre eux, Cadou et Jeter, qui arrive à le placer. Le premier est publié. Les autres ont plus de mal. Et Tim Powers va reprendre son manuscrit, va couper tout ce qui concerne le roi Arthur. Il va rajouter d'autres éléments. Donc il a sa base, qui n'est même pas victorienne. Et il va rajouter l'histoire de voyage dans le temps. Ça donne ce roman Les Voies d'Anubis, qui est un triomphe au moment de sa sortie. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, le genre dominant, c'était le cyberpunk. Donc le cyberpunk, en deux mots, c'est un courant de science-fiction très clairement délimité, défini, avec des manifestes forts qui vraiment donné le credo. C'était une science-fiction politiquement engagée, en forte réaction contre les Américains, où il s'agissait d'imaginer des futurs très sombres, avec des personnages qui étaient tous des drogués, qui projetaient leur conscience à l'intérieur de la machine. Donc c'est Matrix, mais en rajoutant toute la politique en plus. Et donc voilà, ça c'était différents genres de monde. Avec des méga-corporations qui dominent des mondes, donc heureusement, ce n'est jamais arrivé, ce n'est que d'être carré. Et donc, dans les revues, dans le courrier des lecteurs d'un magazine américain, l'Opus, une institution très antique, les gens, qu'est-ce que c'est que ces livres avec Powers, Belloc et Chetter ont sorti, on ne comprend rien. Nous, ce qu'on lisait, c'est du cyberpunk, et eux, ils nous parlent de poulettes. Et Chetter a envoyé une lettre, c'était un canular, où il a dit, ben voilà, nous, ce qu'on fait, c'est du steampunk. C'est vraiment c'était la parodie du mot cyberpunk. Le mot steampunk, bon, les mauvais garçons à vapeur, alors le jeu de mots n'existe pas en anglais. Le mot c'est un mot valise qui n'a aucun sens. Sauf que, tout d'un coup, le mot existait. Et quand je baptise mon enfant, je me l'approprie. Et là c'est la même chose. Tout d'un coup, il y avait un mot qui existait pour que toutes ces fictions victoriennes, et il y en a pléthore qui existaient, on puisse dire ça c'est du steampunk. On peut dire que les mystères de l'Ouest, c'est du steampunk. La série télé, hein. Le film. Hein. Les mystères de l'Ouest, dans cet épisode, ils voyagent dans le temps pour aller sauver le président des États-Unis qui a été assassiné. Donc on est vraiment dans un mélange de science-fiction et d'histoire totalement différente. Donc le mot steampunk désigne cela. Alors comme bien sûr le mot est à la mode, maintenant il y a de nouvelles étiquettes qui s'additionnent. On va parler de diesel punk, d'atomie punk. Ça, on va récupérer le mécanisme lui-même. Si j'imagine une histoire parallèle avec un archéologue qui lutte contre des nazis pour sauver l'Arche de l'Alliance, ça se passe dans les années 50, ça, c'est plus l'époque victorienne. Comment je vais appeler ça? Donc, c'est quand même le diesel. On ne fait que changer la technologie, on passe du charbon au diesel. Le steampunk marche actuellement, monte de plus en plus, mais de manière totalement désordonnée. Avec en France une explosion totale en bande dessinée, qui est Nikon, avec des séries qui connaissent un succès considérable.
C'est comme une façon de dire, les esthétiques modernes et numériques sont un peu moches, et celles des années 50-60 avaient quand même un peu plus de cachet.
La chemise que je porte, qui a été faite par un enfant chinois, certainement, ma montre, je le remercie d'ailleurs, il a bien travaillé. Mon téléphone, fabriqué par un chinois, je le remercie, il a fait de bonnes souvenirs. Et voilà, nous sommes tous dans des produits manufacturés qui sont faits de manière considérable. La publicité veut nous faire croire que nous sommes tous des individus, alors que la société veut au contraire nous uniformiser et qu'on est tous des goûts très conformes. Le retour vers cette époque du 19e, il y a un certain nombre de valeurs qui se dégagent. Soit des valeurs de politesse, de courtoisie. Les forums steampunk, c'est un plaisir à lire, j'ai une belle phrase. Il n'y a pas de je kiffe. Fait de vrai. Mais aussi, il y a cette idée que un dessinateur qui va faire une machine gigantesque, cette machine, elle reste fabriquée par la main de l'homme. Et elle est à dimension humaine. Aussi grande soit-elle, l'écrou a été fabriqué par un être humain. On voit les imperfections du matériau, on voit les coups de marteau. Et dans notre époque qui va très très vite, le fait de regarder un peu vers l'arrière, ben, je peux me projeter mon imaginaire dans un temps où il y avait encore sur la carte, sur la map monde, des terrains incognitas. Aujourd'hui, on a Google Earth, on voit toute la Terre de chez soi sur son ordinateur. En tout cas, je peux me projeter dans un temps où la grande aventure est possible. Donc, c'est pour ça que le steampunk est en soi très, très joyeux, très festif. Tout le temps pouvant être, pour certains auteurs, politiquement engagés, tout en ayant tout à fait. Mais il y a un mouvement, je serais tenté de dire, de réaction. Mais c'est une réaction, ça m'intéresse.
On peut prendre l'esthétique des années 50 sans prendre la politique.
C'est pas se dire, l'époque victorienne, qu'est-ce que j'aurais aimé lire. Mais c'est l'époque victorienne telle qu'elle est racontée dans les livres. Ou alors, pour les auteurs français, c'est réimaginer toutes les années 20. Et c'est donc, et c'est un Bordeaux qui a Art Déco, c'est magnifique, pour une bande dessinée qui par contre est extrêmement violente. Donc c'est voilà, réimaginer un futur du passé à hauteur d'homme. Mais cela, bon, ça participe tout mouvement de ce qu'on appelle le rétrofutur, qui est un mouvement là, qui est très ancien. Star Wars, c'est une série de films rétrofuturistes. Il n'y a que les gamins qui croient que c'est quelque chose qu'il a inventé. Il ne fait que revisiter la science-fiction des années 50. Et d'une certaine façon, faisant beaucoup mal au genre, parce que ça arrête un peu l'imaginaire à une époque donnée. Donc voilà. Là, j'ai un petit
merci pour l'inspiration.
C'est bien.
J'ai une question pour vous aviez. Qui était Laurent Ouvier qui est dans le terme du soir?
Alors là, aucune idée. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est quitté
non,
de, ça, à part au.
Non, enfin, moi, je sais pas, le directeur, en plus de la philosophie. Je suis Bayard, mais c'était, je crois que c'est Charles. Hein.
Oui, Charles.
Et puis c'est. Charles, en fait, je crois que c'est un positiviste, en fait.
Donc, je crois que c'est un
film de l'art aussi.
Il y a une petite ma fille en dépendrait.
Moi, je ne sais pas. Oui, c'est ça, exactement.
Moi j'aurais une question qui est un peu égale à provocatrice. L'Uchronie, j'en lis beaucoup. Du steampunk, j'en lis un peu aussi. Mais la question que je vous pose moi par rapport à cette nostalgie justement du passé, c'est ok, on va reculer, on va prendre des bonnes choses, mais est-ce qu'on va aussi prendre des mauvaises choses? Un truc tout bête, la place de la femme, le rôle de la femme. Moi je veux bien, mais. Une femme victorienne, jamais. Oui, justement, par l'esthétique, mais justement, quand on recule, je veux dire, la science-fiction était déjà à la base un genre très masculin. Après, il y a quand même un parterre d'auteurs, d'éditeurs, d'essayistes, tous hommes, sur scène.
On l'a pas fait exprès.
On l'a pas fait exprès, on l'a fait jamais exprès. Il y a plus d'hommes que de femmes en science-fiction. Mais en même temps, il y a de plus en plus d'auteurs, à dire, je n'aime pas le mot écrivain, il y a de plus en plus d'actrices. Mais du coup, si on va chercher des choses dans le passé, est-ce qu'on va pas aussi ramener des choses, des reculs en fait, des retours en arrière?
Le contre-exemple, c'est Guy Carrier avec la série de Sans Armes.
Ouais, mais c'est pas tout à fait du style.
C'est pas 100% du style. Ouais.
Mais c'est quand même, vachement romantique, quoi. C'est quand même une histoire d'amour, elle est tombée amoureuse d'un loup-garou.
Oui, moi j'ai un âge, c'est mon petit garçon.
Elles sont quand même très cadrées, elle est justement dysfonctionnelle avec sa parabotie. Hein,
Excusez-moi, mais là c'est un problème qui je pense très important parce que qui va même au-delà du steampunk, et vous avez raison, on peut s'interroger sur le caractère éventuellement réactionnaire, voire antiféministe du steampunk, à mesure où on choisit l'époque victorienne, qui est une des époques les plus violentes, civilisées et plus violentes contre le désir féminin, toutes les revendications féministes. D'ailleurs, en même temps, on peut se demander si la réaction ne fait pas naître sa contre-réaction, puisque c'est là que son attitude, c'est là que son néo-sigue suffragette, c'est un autre problème. Et plus généralement, alors ça n'engage que moi, je refuse absolument à envisager la notion même de littérature féminine. Je m'explique. Je pense que la littérature n'a pas de sexe. Et que sur le plan, parce que tu vas vous qui allez faire remarquer un peu, de manière un peu provocatrice, certes, mais qu'il n'y avait que des garçons. Excusez-moi, moi je n'ai pas compté. C'est-à-dire que je m'arrange pour ne pas compter du tout, notamment dans le domaine théâtre. L'écriture n'a pas de sexe. Il y a Richard Millier qui compte à 6h du soir, au Châtelet, qui est seul blanc. C'est-à-dire qu'il faut faire absolument, attention à ne pas compter nous qui sommes écrivains. C'est-à-dire que je pense que ce n'est vraiment pas le domaine de l'oppression. S'il y a eu moins de femmes écrivains que l'homme, c'est effectivement dû à des conditions sociales et à des rapports dans la société. Ceci étant dit, je pense que l'un des pires dirigeants libéraux est une femme, donc il n'y a pas de parti particulière de faire de politique quand on est une femme. Il n'y a pas de. Je pense que la parité est un piège à pompe pour les femmes, si vous êtes jusqu'au bout. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes là parce que vous êtes une femme. Parce que là, si on est là, c'est parce qu'on est des hommes. Par contre, si vous commencez à demander un quota d'une autrice, d'une auteuse, ou d'une auteureuse, ou d'une auteuresse féminine pour venir sur la table, non, il faudrait très attention. Si la littérature n'a pas de sexe. Il n'y a pas de femme écrivain et d'homme écrivain. Voilà. Ça, ça n'engage que moi. Je trouve qu'on est assez emmerdé dans le communitarisme à tous les points de vue, sans en plus commencer à aller le mettre en littérature en faisant des quotas. Et c'est vrai parce que même moi, j'ai dirigé une anthologie sur le thème du dernier homme. Avec Pierre-Jean Lenotval à l'époque de leur collection, j'ai été obligé de penser comme ça. C'est-à-dire que ça m'a gêné, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il y a un tel ordre moral inversé, que je me suis dit, merde, il faudrait bien que j'ai deux ou trois femmes. J'exagère, parce qu'il y en avait deux qui s'étaient imposées d'elles-mêmes, Chantal Pelletier, qui n'est pas spécialement un auteur de polar, je suis un peu du sommaire. Mais encore une fois, il faut faire gaffe, il ne faut pas trop compter, quand même. Voilà. Excusez mon anglais, mais le fait de vouloir absolument, par exemple, classifier un auteur en fonction de sa sexualité, revient à des façons américaines de voir les choses. Dans le pire des cas, c'est américain, c'est pas forcément mauvaise chose. Une façon américaine moralisatrice de voir les choses, qui est lors de l'affirmative action, qui fait que, bah, finalement, on va faire par certains campus, par trouver Proust uniquement en voyant des écrivains gays. Moi, personnellement, ça pose un problème. C'est-à-dire que c'est une forme de réduction de la littérature à des choses qui ne sont pas littéraires. Voilà.
Dans le domaine de l'écriture, je ne pense pas. En fait, il s'agissait, si j'ai bien compris votre remarque, c'était de dire, bon, la nostalgie, oui, mais quelle était la place de la femme, effectivement, dans des mondes que l'on décrit en faisant parfois une sorte de apologie, quelque chose de ce genre. Effectivement, puisque je parlais du progrès, il y a le progrès technologique, il y a le progrès des sciences, il y a le progrès de l'évolution des éthiques, etc. Et c'est vrai qu'à notre époque, il y a des questions qui, bien sûr, ne sont pas résolues, mais qui ont au moins le mérite d'être posées, qui n'étaient pas à ces époques antérieures. Je pense avoir compris ça. Je pense que...
Parce que, pour dire le fond de ma pensée, le problème tel que tu le poses, c'est pas grave. Ce sont des livres. Et je crois que même une femme qui dans sa vie est militante, engagée, consciente d'elle-même et de ce qu'elle est, peut prendre plaisir à lire une aventure. C'est pas, voilà, c'est pas si sérieux que ça.
Enfin, là, par contre, je suis moins d'accord, parce que si je reviens quand même à la question que souvent, pourquoi est-ce qu'on avait réagi un petit peu sur la remarque, c'est un garçon dans le vent. C'était, non, pour ce que tu as dit, pour en répondre, si, je crois que c'est important, c'est pas que des livres. Par exemple, j'ai écrit un poulpe, et le poulpe est une collection qui avait été créée en réaction à SAS. C'est-à-dire, c'était la SAS, c'est, vous savez, ces derniers polars et qui sont et qui véhiculent une image absolument abjecte de la femme, qui est toujours une magnifique salope qu'elle pige, qui en général
est toujours qui est dirigé en ce moment et qui par une femme.
Oui, attends, voilà, je peux bien sûr, et qui est oui, parce qu'on est pas dans le féminisme. Mais c'est le non, mais j'ai Ovidie, ça Ovidie dans le genre réaction, enfin, il n'y a pas pire comme dans la réaction que ça. Mais effectivement, par exemple, SAS objectivement véhicule une image absolument dégradante de la femme dans le cahier des choses. Et comme c'est des livres qui sont quand même lus par 100 000 personnes à chaque fois dans les gares et ailleurs, ça pose un problème. Bon, le poulpe avait essayé d'y réagir justement en créant un héros libertaire, un héros écologiste, féministe, ceci étant dit, effectivement, ça pose un problème. Moi, je ne connais pas assez le steampunk, à part la machine à différence, je n'ai pas vu grand-chose, pour en tirer des conclusions définitives sur la position de la femme. Je sais qu'en roman noir, pour parler de ce que je connais peut-être un peu plus, effectivement, sont véhiculés jusque dans les années récentes, jusqu'au néo-polar, des stéréotypes profondément machistes. La femme fatale, comme si elle est pas une fatale. Ou alors au contraire, ce qui est une inversion peut-être davantage que je trouve dans l'essai, ou alors la super-héroïne, c'est-à-dire que c'est rarement une femme ordinaire dans le roman noir. On est une femme fatale ou on est une super-espionne, etc. Enfin, la veuve noire, je suis une super-héros, etc. Bon, voilà. Donc ça oui, il faut ça, je pense que sans non plus s'ériger en comité de vigilance et de politiquement correct, il faut faire attention à ça. On peut y réagir par d'autres livres. Voilà, en écrivant d'autres, en faisant d'autres façons. Mais c'est vrai que sur le fond, moi je ne vais pas si peu pour commencer, sur le fond du roman noir, il est vrai qu'un certain nombre de stéréotypes machistes ont été, du polar de consommation courante, ont été véhiculés pendant des années et des années. C'était pour la couverture, c'était jamais un mec à voile. Voilà, donc c'était. Et qui fait que là, il y a eu un problème et que, bah, écoute, effectivement, on n'y a pas répondu en censurant ou en interdisant, on a répondu en créant un autre héros qui a eu son succès aussi. Tout néopolar était issu de 68, donc effectivement, une idéologie assez libertaire qui n'avait plus ces problèmes-là. Voilà. Ceci étant dit, c'est vrai que ça peut peut-être poser problème, mais je ne connais pas assez si peu pour en parler.
Si je peux dire une toute petite chose,
ton intervention, en fait, alors on voit cette histoire de Winnie. Il n'y a pas besoin d'être un petit ours pour écrire Winnie l'ourson. Et c'est peut-être aussi pour ça que, tout en sachant qu'effectivement, il y a des affects dans la littérature, mais il y a des affects provoqués, des affects qu'on fait passer. Enfin, ça nous amènera à un vaste débat, mais qui convoquerait Proust et Paul Valéry. Mais en gros, un auteur, c'est pas ce qu'il écrit, c'est, t'as pas besoin de savoir. Ce que pensait Mozart quand il écrit le Requiem, ou il y a cette idée que le livre il est autonome par rapport à l'auteur et qu'il n'est pas forcément le reflet ou le message ou le carbone de ses sentiments. Moi, quand je décris quelque chose dans un bouquin, j'arrête et je vais acheter du pain. Puis je reviens, puis je continue. Il n'y a pas besoin d'être triste ou pendant 3 ans pour écrire un roman triste. Enfin, c'est pour ça que c'est peut-être passé en douce tout à l'heure, mais que ça nous amènerait à un autre débat, mais que personnellement, j'établis la différence entre l'individu et le roman, et que je regrette d'ailleurs que en cours de lettres, en France en tout cas, parfois on privilégie trop l'approche biographique des œuvres, alors qu'il faudrait s'intéresser aux œuvres. Voilà, voilà.
Ah, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est vrai, d'un autre côté, lorsqu'on écrit, on est forcément une part de soi-même dans l'écriture. Enfin, moi, c'est mon cas, personnellement, je pense que dans mes modestes œuvres, quelque part, je pense que je suis un petit peu de tous les personnages. En fait. Il y a un petit peu de moi dans chaque personnage, en fait. C'est ce qui est logique, sinon, je n'arriverai pas à décrire une personnalité si je ne peux pas la ressentir un peu quand même. Donc, dire qu'on est totalement indépendant, enfin que l'œuvre est totalement indépendante, c'est pas faux dans un sens, parce qu'effectivement, une œuvre va vivre par elle-même à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, moi je sais, dans tel premier roman, la fin qui est écrite n'était pas du tout celle qui n'était pas eue. En fait, il y a un personnage qui a tout à coup pris une importance particulière à un moment donné, c'était lui. C'était forcément lui qui devait terminer, alors que j'avais pensé le théâtre. Donc, quoi, c'est très bien, en fait, c'est comme si ce personnage, tout d'un coup, prenait fil dans mon canapé, en disant, je suis là, c'est moi qui vais finir. En gros, c'était ça. Donc, effectivement, le livre est un peu autonome, mais malgré tout, je pense que l'auteur a toujours quelque chose, entre guillemets, je dirais une responsabilité pour revenir un petit peu à la question posée, et qu'effectivement, un livre véhicule forcément des idées qui sont obligatoirement quelque part un petit peu les idées de l'auteur. Et qu'effectivement, si on commence à véhiculer des chemins de société qui sont complètement inculés et complètement insupportables, en fait, eh bien, effectivement, on transmet ces idées-là. Et je pense que l'auteur a une petite part de responsabilité.
Oui, mais une idée à ce genre de face.
Oui, bien sûr.
Pourquoi pensez-vous que Xavier Gauméchon a pris le mot Pandore pour sa collection? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il pense que vraiment que les femmes vont ouvrir la jarre en cours, ou est-ce que c'est pour dénoncer le contraire?
Je profite d'une anecdote, on a eu du mal à acheter le titre Pandore parce que il était opté par France Télécom, et je vous garantis que c'est vrai, pour sa cellule anti-suicide. Invraisemblable. On leur a expliqué que ça allait être de la fiction, des romans et tout, donc ils ont consenti à le laisser pour la littérature.
C'est un peu comme l'histoire avec les textes sur le la simple. Pourquoi j'ai appris à aimer qui a été pris en premier degré.
Sauf que là, là c'était du second degré, mais pour Pandore, je ne sais pas qui a eu chez France Télécom l'idée d'appeler ça Pandore. Soit c'est un gros malin, il est entouré d'incompétents. Soit il y a une volonté alors très calculée d'arriver à un résultat.
Oui, pardon. Je voudrais revenir sur le steampunk, puisqu'on a un peu dévié là. C'était d'abord une remarque, une question. La remarque, c'est à propos du féminisme. Ça, je ne pense pas que quand on écrit sur une période, on s'identifie au stéréotype de la période. Un écrivain qui écrit en 2012, il écrit en 2012. S'il parle de vous le disiez, n'importe quel roman de Steampunk, n'importe quel roman historique, c'est frappant dans les romans historiques, bon, Steampunk ou autre, ou même dans les romans policiers historiques, les personnages, les héros, ils sont toujours très féministes par rapport à leur société. Je veux dire, le héros, l'écrivain, il véhicule nos valeurs elles. Il ne véhicule pas les valeurs de l'époque. C'est pas parce que vous allez écrire sur le 19e siècle que le personnage principal, il sera les femmes, c'est leur. Non. Au contraire, par rapport aux autres, et par rapport aux autres personnages, il va détonner. Il pensera que, effectivement, les femmes, elles ont droit à ceci, à cela. Et alors, si l'écrivain est bon, je veux dire, il sera un peu en but aux autres personnages. Ça, c'était la remarque. La question, c'est pourquoi le succès du steampunk. Je me demande aussi. Si c'est parce que, généralement, le steampunk, ça s'arrête en 14. Et bon, en 14, c'est la Première Guerre mondiale, c'est quand même la fin de l'illusion du progrès. Tout le 19e siècle, on s'imagine qu'avec le progrès, c'est-à-dire le monde va devenir magnifique, etc. Or, justement, peut-être que je me trompe, mais si on se réintéresse à cette époque, parce qu'on se dit, on croyait au progrès, maintenant on y croit moins, Mais c'était quand même bien, il y avait une espérance. Et se reporter à ce moment-là, c'est peut-être se dire la science, la technique, ou peut-être quelque chose, vont faire que les choses vont se débloquer, que c'est-à-dire, jusqu'au dernier fois, jusqu'en 14, on sait qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Ça se passe quand même, je suis désolé, on vit quand même mieux en 2012 qu'en 1912 ou qu'en 1812. Bon, il y a quand même des progrès. Et il y a une sorte de devenir au 19e siècle, alors devenir en idée, et peut-être que, bon, peut-être que la société en ce moment est désespérante, je ne sais pas, et peut-être que le succès du steampunk, c'est peut-être aussi, on se replace à une époque où il y avait cette espérance, en se disant, cette espérance, elle n'est peut-être pas perdue. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une vaste question. Je pense que vous touchez du doigt quelque chose de juste, que d'une certaine façon, le succès du steampunk marque l'échec d'autres formes, ce qui fait qu'il occupe une place accrue, parce qu'il n'y a peut-être pas autre chose actuellement à proposer. Avec comme idée que de réenchanter à la fois le réel, donc de réinventer vraiment des choses qui sont en termes d'idéaux, de simplement d'émerveillement par rapport à l'objet ou par rapport à la chose. Une description steampunk va chercher à développer une espèce de jouissance du texte. Avec peut-être le problème plus délicat, qui serait celui. Moi je fais attention parce que je suis un tour d'écrivain, d'avoir un retour vers un plaisir, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, un plaisir pur, le plaisir du texte, donc un pur plaisir de la fiction, un pur plaisir, le fait que de pouvoir écrire de nouveau sans qu'il y ait d'ironie, sans qu'il y ait de cynisme, sans qu'il y ait de plein d'œil appuyé en direction du lecteur, avoir des héros qui soient de pro-héros, des héroïnes qui soient de vraies héroïnes, et des grands méchants, de la grande aventure. Simplement ça. Refaire du pur divertissement au sens noble du terme. Je pense qu'il y a ça aussi, qu'il y a cette composante-là. Et peut-être que je la remplace, enfin, je remplacerai la désespérance du temps présent par cet appétit que l'on raconte des histoires. Donc, ça, c'est ce que font les auteurs steampunk. Et je pense qu'on peut peut-être tirer un lien aussi avec le succès de toutes ces muettes vampiriques. Que l'on souvent commence à raconter des histoires d'amour et que. Important, l'histoire, c'est principal, c'est de passer un bon moment avec le texte.
Je me demande d'ailleurs si, parce que ce qui est intéressant, c'est que les idées peuvent être en même temps de la réflexion, je vais dire deux choses, c'est que peut-être que avec cette intuition pure que tu as construite, etc., par exemple, tu t'inscris dans un courant qui est celui d'une certaine littérature américaine, John Hawke, ou etc., qui sont des constructeurs d'histoire, là où je serais du côté de Hemingway et Richard Ford, par exemple. Mais ça, c'est une parenthèse, c'est un vrai débat, c'est avec le verbe du côté de Stevenson, là où je vais me sentir du côté de Dickens, par exemple, si je prends des contemporains, ce qui fait que je viens de comprendre ça tout en parlant sur le fait de croire à une fiction pure à laquelle je ne crois pas. Et l'autre réflexion que je voulais faire à propos de ce retour au monde victorien, parce que j'ai lu La Machine à Différence, justement, quelques nouvelles sur une anthologie aussi au feu noir, du Stevenson que j'avais lu, c'est à peu près. Mais, ça m'amuse aussi parce que, et je vais revenir dans votre sens, c'est un monde pré-psychanalytique. C'est-à-dire que c'est un monde d'avant Freud. C'est un monde où s'il n'y a pas de doute sur le progrès, il n'y a pas de doute non plus sur qui nous sommes. Nous sommes pleinement nous-mêmes. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de moi, etc. Et ce qui est très intéressant, je vais prendre un exemple pour vous prouver ce que je dis, si vous voulez, littérature avant Freud et après Freud. C'est pas nécessairement la science-fiction, mais ça me semble intéressant parce que c'est deux livres qui racontent exactement la même histoire, enfin, le même pitch, comme on dirait aujourd'hui, mais qui donnent des résultats littéraires tout à fait différents. C'est, il y a un roman de Jules Verne qui s'appelle Deux ans de vacances, qui imagine donc des adolescents, enfin des enfants alors de 5 à 15, 5 à 18 ans, craquant, le bateau craque, ils se retrouvent sur une île, donc ils sont obligés de s'auto-organiser. On les retrouve au bout de 2 ans, c'est merveilleux. Les grands ont aidé les petits. C'est un monde parfaitement. Ils ont recréé une société harmonieuse. Il n'y a pas eu de pulsion, il n'y a rien eu. William Golding, dans un roman qu'on hésite même parfois à donner, raconte à peu près la même histoire, qui est Sa Majesté des Mouches. Il raconte à peu près la même histoire. Or, c'est un roman qui est écrit après qu'on sache que l'enfant est une créature qui est perverse, polymorphe. Ah. Et donc, on se retrouve effectivement sur une île où, au bout de quelques années, ils sont retournés à une espèce de pensée magique monstrueuse, ils se font d'une guerre féroce, ils s'éteignent, c'est dans l'esclavage, ah, c'est dans la violence, le sang, c'est-à-dire c'est fini, la gentillesse. Et donc, je me demande aussi s'il n'y a pas, dans ce désir de fiction pure, dans ce désir de désaffection, l'idée de, finalement, si on pouvait retrouver ce monde merveilleux d'avant Freud, ce monde merveilleux d'avant la guerre de 14, tout se tient, hein, qui était un monde où nous étions à la fois maîtres de nous-mêmes, pas de blessures narcissiques, nous étions au centre du monde, pas de blessures, c'est la théorie des trois blessures, pas de blessures géocentriques, et puis, pas de blessures ethnocentriques, quand on était occidentaux, et puis aussi, pas de blessures, parce qu'il n'y avait pas d'autre monde possible où on avait une vision, une blessure, enfin, c'est Copernic, c'est, je ne sais plus, parce qu'il y a trois, et la blessure géocentrique, nous ne sommes plus le centre du monde, et la blessure ethnocentrique, il y a d'autres civilisations, et il y a la, qui va peut-être la nôtre, et il y a des blessures narcissiques. Celle découverte par Freud, c'est peut-être une nostalgie du moment où on était à la fois où le progrès était gentil et où nous aussi on était gentils. Voilà. Sauf que apparemment le progrès peut être catastrophique et nous sommes pétris de névrose et de pulsions contradictoires. Et ça, on peut vouloir évacuer la littérature pour en faire un bel objet pur, malarméen, en
malin,
en saboté.
Malin. Non. Bah, il se trouve que. Bon, pas mon prochain roman, mais celui d'après, celui sur lequel je travaille en ce moment, je pars d'un fait divers qui est authentique, que Freud et Houdini étaient en même temps à New York en août 1909, donc deux juifs, un de Brooklyn, un de Vienne, un qui est spécialiste de l'évasion, de l'intrusion, mais malin, la pure fiction ça veut pas dire j'ai jamais fait steampunk déjà pour commencer, ça veut pas dire quelque chose de positif ou de béat, parce que je le revendique, d'ailleurs j'en fais pas une croisade, mais ce que je fais moi c'est quelque chose que je veux débarrasser de tout subjectivisme, de tout ethno-wingo-centrisme et de tout message. Et s'il y a des messages, souvent on dit ah ouais, super, il a été dit ça. Oui, mais c'est contrôlé. Je pense qu'on peut considérer un roman en soi, et c'est pas en plus dernière chose, et c'est des risques pour un auteur. C'est pas parce que c'est débarrassé de tout subjectivisme et de tout message que ça en devient la littérature populaire pour autant. Alors là, en plus, non. Non, il peut exister une écriture qui ne réponde pas au diktat soit de la narration personnelle, soit de la narration à message. C'est ce que j'essaie de faire.
Thomas Fiction.
Oui,
voilà. Oui, d'accord, c'est vrai.
Bonjour. Donc, pour moi, c'est plus une question au niveau de Orwell, parce que j'ai été étonné, vous parliez pas de Huxley. Et parce que, en fait, au final, j'ai l'impression que j'ai remarqué qu'Orwell était plus populaire, enfin, que 1984 était plus populaire que Le Meilleur des Mondes, dans le sens où, dans 1984, c'est une institution, mais des gens au-dessus qui vont venir opprimer. La population, les individus, alors que dans le meilleur des mondes, c'est le contraire. Enfin, c'est pas le contraire, c'est juste que les individus se laissent contrôler parce qu'on leur donne des choses qui leur font plaisir. Enfin, je vous dirai, mais après. C'est peut-être ça, justement, la base de la popularité 1984, c'est qu'au final, l'individu, il paye des impôts, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est prouvé, on remarque que 1984 peut être considéré comme une chronique dans le sens où ça s'est pas passé comme ça après, mais dans le cas du meilleur des mondes, on remarque que la consommation, c'est surtout les individus qui la vendent, les individus en ont envie. Donc forcément, on se demande si le meilleur des mondes n'a pas vu plus juste que 1984. Enfin, la question.
Moi, je pense que pour revenir à ça, on a pu citer le school, bref, on a pu citer le meilleur du monde, mais enfin, ceci étant, 84 pour moi est beaucoup plus proche de ce qu'on vit actuellement que le meilleur du monde. Le meilleur du monde, c'est une société où on n'imaginerait pas aujourd'hui, par exemple, d'envoyer aux gens, lorsqu'ils arrivent à 60 ans, un petit courrier en leur disant on va présenter le fond numéro 13, la nuit numéro 2, et éviter de boire la veille. Je pense qu'on n'imagine pas quoi, ça puisse exister en gros. Voilà.
Bien sûr, mais il y a le concept. Le fait que c'est pas, on leur a pas imposé cette oppression, mais c'est eux qui l'ont choisi sans vraiment s'en rendre compte.
On leur a pas imposé ici, quand même, parce que quelque part, je pense pas qu'ils souhaitent vraiment naître dans des éprouvettes comme ils le font, avec une vie toute programmée de pilote. Je me rappelle d'un épisode où on remue une éprouvette pour habituer le futur pilote à se trouver dans un avion, enfin, un truc comme ça. Non, en fait, si. Ils sont totalement soumis, les gens, en fait.
Mais c'est la façon dont on arrive à ce contrôle qui est différent.
Oui,
c'est plus probable chez Othier que chez 1984.
Bah, oui, j'ai l'impression que le type de totalitarisme, s'il y a quelque chose qui s'approche de quelque chose de totalitaire dans la société, c'est quand même, ça ressemble beaucoup plus à 84 qu'à, par exemple, ça tiendra ce que ça tiendra, le vivant est breveté, mais c'est quand même une société qui, le meilleur du monde est une société dont la hiérarchie est biologique, enfin, c'est une société, c'est le mot qui m'échappe, c'est sur l'euthanasie, sur l'eugénisme, voilà, c'est une société eugéniste, la nôtre a énormément de défauts, elle n'est pas eugéniste, c'est un problème qu'on a vu, c'est pas là-dessus qui est fondé la société. Par contre, en revanche, si on pense à une société qui fait passer son idéologie par des moyens de communication révolutionnaire, c'est plutôt près ça. C'est des moyens de communication qui sont plus élaborés avec l'écriture du passé, parce que finalement, Internet faut le faire. En fait, hein. Dans le genre, si c'est vraiment, ça aurait été le cauchemar d'Orwell, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut réécrire à peu près n'importe quoi et inventer des personnes complètement fausses, etc. C'est la technique, les nouvelles technologies sur lesquelles nos sociétés sont largement fondées, occidentales en tout cas, auraient tendance quand même à donner l'impression qu'on vit dans un monde de la télésurveillance, auraient l'impression qu'on vit dans un monde plus orwellien que huxleyien. Où Huxley était quand même, je dis encore une fois, sur l'eugénisme. C'est vrai que toutes les traces d'eugénisme, etc. Ceci étant dit, on n'en est pas quand même. Dans nos sociétés, on en est à avoir pratiquement toutes nos activités dans la vie informatisée. Ça, c'est clair. De ma carte de bibliothèque à ma carte de piscine. Et donc, il suffit de regrouper ça pour que le cauchemar arrive très vite. On n'en est pas, ça, on en est là. On en est à, effectivement, être tracé par les caméras de télésurveillance. On en parlait ce matin à peu près partout. On n'en est pas encore, et il y a plein, je dis encore une fois, il y a une forte résistance là-dessus, j'allais dire, autour de tout, dans partout, sur le fait de, par exemple, trier les fœtus, etc. Ça pourrait, mais c'est pas là-dessus qu'est fondée la société, en ce moment. Voilà. C'est peut-être la raison du succès, pour répondre à votre question, du fait que les gens se sentent plus concernés quand ils lisent 1984 que quand ils lisent le meilleur des mondes, qui est vraiment un excellent livre, mais voilà.
Effectivement, enfin, c'est une vieille lecture, mais j'ai l'impression que les gens sont quand même relativement contents de leur sort. Enfin, je ne me souviens pas. Plus évident. Là, on peut reconnaître aussi la science-fiction critique tel ou tel aspect de la société. Elle est minoritaire. En fait, bien souvent, on voit d'ailleurs à travers l'environnement des gens, à travers les résultats d'élections ou d'autres choses, ou des succès de librairies qui sont très consensuels sur la société. Bon, effectivement, on s'aperçoit quand même, c'est peut-être la pire des choses, c'est que la grande majorité, voire quasi totalité des gens, sont effectivement optent pour la réalité telle qu'elle est, et on compte
tout ça, je dirais même pas fataliste, mais plutôt content en ayant le sentiment de participer à quelque chose de très positif. C'est peut-être la différence entre les deux romans, tel que je les imagine avec beaucoup de recul, puisque